Alors là, il y a plusieurs niveaux qu'on pourrait traiter la question de réincarnation, un niveau métaphysique, carrément métaphysique, à un niveau, on peut dire, moral ou spirituel, c'est plutôt le, selon la citation qu'on vient d'entendre, et un point de vue, ce qu'on peut dire, scientifique ou physique, en fait, phénoménal, si vous voulez. D'abord, la croyance à la réincarnation est une des plus anciennes croyances sur la Terre, n'est-ce pas? Il y a certaines qui pourraient même dire que voilà, juste sa persistance est une preuve de sa véracité, n'est-ce pas? En fait, ça fait tellement d'années que tellement de personnes croient à la réincarnation que ça ne peut pas être faux. Alors, je veux débattre cet argument tout de suite. Pendant des millénaires, les gens croyaient que les femmes étaient inférieures, etc. On faisait des esclaves, enfin, il y a toutes sortes de croyances superstitieuses qui ont persisté pendant des milliers d'années. Donc la persistance d'une idée n'est aucune preuve de sa véracité. Et d'ailleurs, c'est presque le contraire dans le sens que les idées scientifiques changent, nous savons ça, la science change tous les jours. Donc, l'esprit scientifique est un esprit d'ouverture envers des nouvelles vérités. Donc, ce qui porte à la persistance d'une croyance, et surtout une croyance fixe, c'est plutôt la superstition ou, si vous voulez, certains mécanismes sociaux qui font que cette croyance attire les gens dans une certaine société, mais pas parce que la chose a été mise à l'épreuve, n'est-ce pas, enfin, du point de vue scientifique. Bon, maintenant, du point de vue métaphysique, la foi Baha'i enseigne que chaque individu, chaque personne a une âme qui n'est pas matérielle, ce n'est pas composé d'éléments, c'est-à-dire en plus de notre corps qui est visible et qui est composé d'éléments et qui est sujette à la décomposition, même au fond du Saguenay. nous avons une âme qui n'est pas matérielle. Et cette âme vient de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle en philosophie une substance unique. C'est-à-dire c'est indivisible. Il n'a pas de partie, ça ne peut pas être décomposé, n'est-ce pas? Donc ça c'est très important parce que, par exemple, le propre d'un corps physique, c'est qu'on peut aliéner certaines fonctions du corps sans le détruire. Par exemple, enfin, pour parler un peu grossièrement, je peux perdre mon bras, mais mon corps comme organisme persiste quand même, n'est-ce pas? Je peux fonctionner comme organisme sans bras, de façon diminuée, j'en conviens. Mais je veux dire, je peux aliéner une partie du corps sans détruire le corps comme entité. Mais pour une chose indivisible comme l'âme, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, vous pouvez pas aliéner une partie de l'âme parce qu'elle n'est pas de partie. Donc la seule chose qui serait logiquement possible, ça serait de tuer ou supprimer l'âme. Mais Abdu Baha explique la chose suivante. Il dit, l'existence ne peut jamais être devenir la non-existence. Et vice-versa aussi, enfin, la non-existence absolue ne peut pas devenir l'existence. Donc, la mort, au sens de du néant, ou l'anéantissement, n'existe pas. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre quoi que ce soit qui est existant et le remplacer par un non-existant. Vous pouvez seulement transformer cet existant dans un autre existant. Donc, l'exemple du corps, quand notre corps meurt, n'est-ce pas, tous les éléments, d'abord, tous les éléments qui sont dans notre corps ont toujours existé. Il y a 3000 ans, les éléments, les atomes qui sont dans votre corps existaient il y a 3000 ans. Alors, ils étaient quelquefois dans un champ ou je ne sais pas où, n'est-ce pas. Donc, on est tous vraiment un poignet de poussière qui est ramassé ensemble, qui est tenu ensemble temporairement par certaines lois et tout ça. Et quand nous mourrons, enfin, ces atomes seront dispersés aussi Donc, la différence entre la vie et la mort de notre corps, c'est une question de configuration. La mort est une transformation. Comme Abdu'l-Bahá dit, il y a des transformations qui sont lentes et des transformations qui sont rapides. Notre corps est toujours en transformation. À chaque instant, ça évolue. Mais la mort est une une transformation rapide, etc. Donc, ça c'est un principe. Et Olga l'a très bien exprimé il y a quelques semaines qu'on en parlait, quand elle était devant la mort de sa mère, elle dit, mais voilà le corps qui est un tas de poussière, voyez ça, mais où est ma mère? Parce que sa mère est une énergie, et l'énergie, on ne peut pas le tuer, l'énergie. On peut le transformer, on ne peut pas le tuer. Alors donc, Abdu'l-Bahá explique que tout ce qui est composé est sujet à la décomposition. C'est-à-dire, la vie de tout composé est limitée dans le temps. Il y a un commencement et un fin. Le commencement, c'est quand la force d'attraction ramasse ensemble les éléments qui composent la chose. Et tant que cette force d'attraction existe, le composé existe, et quand quelque chose brise cette force d'attraction, alors les éléments dispersent, et c'est inévitable tôt ou tard que ça arrive. Autrement dit, la vie d'un composé est toujours limitée dans les deux directions. Il y a un commencement et un fin. Il explique que l'âme humaine a un commencement, mais n'a pas de fin. Maintenant, vous pouvez aussi poser la question, mais si l'âme est créée à un moment donné, de quoi est-elle créée? Parce que si on suit mon principe, la non-existence pure ne peut pas devenir l'existence. Donc si l'âme existe à un moment donné, ça ne peut pas venir du néant. On peut dire que c'est créé par Dieu. Okay? Dieu est l'agent de création de l'âme. Okay? Mais d'où vient l'âme? C'est-à-dire de quoi elle est faite? Alors, Abdu'l-Bahá répond à cette question. Il dit que l'âme existe éternellement dans un état de potentiel. Mais donc comme substance, ça existe. Encore une fois, ça ne vient pas du néant. La substance de l'âme existe toujours, mais l'âme n'a pas d'individualité, n'a pas de capacité, et n'a pas de conscience. Donc quand on parle de création de l'âme, qui selon la foi bahaï est au moment de la conception physique, mais ce n'est pas la conception physique qui crée l'âme. C'est Dieu, c'est par un acte de Dieu lui-même que l'âme est créée. Mais Dieu a fait, pour certaines raisons, que cet acte de création de l'âme a lieu au moment de la conception physique. Donc, cette âme est faite d'une substance qui est préexistante, mais l'âme comme telle n'a pas de préexistence. Une analogie que j'ai inventée moi-même pour comprendre ça, que je trouve quand même, bon, vous allez voir ce que vous en pensez, mais je peux appuyer ça par des écrits aussi. On dit que l'âme, c'est l'esprit, c'est fait d'esprit, ou une essence qui n'est pas physique, donc. Alors, donc, l'esprit est l'étoffe dont l'âme est faite. Et les capacités de l'âme et sa conscience, c'est ce que Dieu ajoute, par exemple, au moment de la création. Alors, j'imagine la chose suivante. Par exemple, supposons qu'on fabrique des poupées avec des tissus. On a un rouleau de tissu, ok? Ça, c'est l'étoffe dont les poupées sont faites. Alors, donc l'étoffe, ça préexiste, on ne peut pas faire une poupée de rien du tout. L'étoffe est là, un rouleau d'étoffe, si vous voulez, de tissu. Alors, quand on fait un poupée, on individualise le poupée, on va le découper, par exemple. Alors, à ce moment-là, on peut dire que le poupée existe quand on l'a fabriqué. Ça n'existait pas, bon, comme poupée. Okay? L'étoffe dont le poupée est faite existait toujours, ça préexistait, mais le poupée comme entité, avec sa forme humaine, et tout, ses yeux, etc., tout, en tant que poupée, ça n'a jamais existé avant qu'on l'a créé, on l'a fabriqué de cette étoffe. C'est un peu comme Abdu'l-Bahá explique la venue en existence de l'âme, c'est un acte créatrice de Dieu qui prend cette substance préexistante, mais qui n'est pas douée de conscience, qui n'est pas douée de capacité, et tout ça, d'intelligence, de senti, etc. Et Dieu fait de cela une âme qui a la capacité de refléter tous les attributs de Dieu. Maintenant, question métaphysique. Si l'âme, oh, ok, et puisque l'âme n'est pas composée, elle ne peut pas se décomposer, donc son existence est éternelle. Donc, l'âme a un commencement, mais n'a pas de fin. Les choses composées ont des commencements et des fins. L'âme, c'est un deuxième niveau, si vous voulez, ça a un commencement, mais ça n'a pas de fin. Parce qu'elle n'est pas composée d'éléments. Et donc, on ne peut pas aliéner une capacité de l'âme. On ne peut pas soustraire l'intelligence à l'âme ou quelque chose que ce soit à l'âme. Aucune capacité de l'âme ne peut être aliénée de l'âme parce qu'elle n'est pas partie de l'âme. Elle est l'âme. Toutes les capacités de l'âme sont l'âme. L'âme est un entier indivisible. Donc, on pourrait, si Dieu voulait le tuer, il pourrait le faire, mais Dieu ne le ferait jamais. Parce qu'il a créé pour endurer. Il a créé de façon à ce que ça ne périsse jamais. Donc, première question métaphysique. Devant ces propositions métaphysiques, pourquoi le corps? C'est-à-dire, si l'âme, c'est le siège de la personnalité, si l'âme, c'est le lieu de notre de capacité, notre conscience et tout ça, pourquoi est-ce que nous venons dans ce monde? C'est-à-dire, parlons pas de réincarnation, pourquoi de l'incarnation? Pourquoi est-ce qu'on vient même une fois sur cette terre? Est-ce que ça aurait été possible, par exemple, que Dieu crée des âmes tout simplement dans l'autre monde, dans le monde spirituel, et que ces âmes continuent à vivre, ils grandissent dans le monde spirituel et tout ce que vous voulez? La réponse est absolument oui. Métaphysiquement, ça aurait été tout à fait possible. Et c'est essentiellement le cas des petits bébés qui meurent, enfin, ou des enfants qui meurent avant terme et tout ça, avant d'atteindre une conscience même, ok? Abdu'l-Bahá explique que ces âmes atteindront la conscience, le développement de leur capacité dans l'autre monde. Donc c'est Abdu'l-Bahá qui dit ça, parce que là, évidemment, ça c'est une grosse question, n'est-ce pas? Si le vécu dans ce monde était strictement nécessaire au développement de l'âme, ça condamne toutes les âmes qui meurent avant le développement. Donc ça les condamne, on fait quoi, une lambe ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Soit de non-existence ou un non-développement éternel. Donc, mais Abdu'l-Bahá affirme, et Baha'u'llah affirme, que toute âme continuera à progresser dans l'autre monde après sa mort, y compris les âmes des embryons, en fait, etc., qui n'ont même pas atteint la conscience dans ce monde, qui n'ont fait, pour ainsi dire, aucun développement. Donc, les écrits Baha'i affirment que le progrès peut se faire et se fait dans l'autre monde. Donc, l'âme n'a pas besoin du corps pour progresser. Donc, ça soulève d'une façon encore plus précise pourquoi alors commencer notre aventure avec un corps où l'âme est jointe, si vous voulez, au corps. Pourquoi est-ce que l'âme vient sur cette terre? Alors, la réponse qu'Abdu'l-Bahá donne à cette question, et là je résume beaucoup d'écrits, il dit que la raison d'être, que cette vie terrestre, cette vie où l'âme est jointe au corps, est une occasion pour un développement extrêmement rapide de l'âme. Alors, je donne un exemple. Abdu'l-Bahá dit que ce monde physique est comme la matrice pour l'autre monde. Alors, pensons à la matrice de notre mère. On a passé 9 mois dans la matrice de notre mère. On commence comme une cellule, n'est-ce pas? Une cellule fécondée, et au bout de 9 mois, on est un être humain, petit, mais complet, n'est-ce pas? On a tout ce qu'on n'aura jamais de point de vue physique, n'est-ce pas? Toute notre génétique est déterminée, etc. Okay? Pas tout le développement, mais toute l'entité est là. L'entité, comme telle, n'a gagné rien d'autre à partir de ce moment-là. Okay? Alors, mais... Donc, dans 9 mois, cette cellule, une cellule, se transforme quantitativement et qualitativement dans un être complexe ayant plusieurs milliards de cellules. Donc, il y a multiplication de cellules et complexification, c'est-à-dire par spécification des cellules. Par la spécification des cellules, la différenciation des cellules, ça, c'est pas simplement une colonie de cellules, mais c'est un organisme. Un organisme, le propre d'un organisme cellulaire, c'est la spécialisation, la différenciation des cellules et la coopération, évidemment, entre les différentes cellules différenciées. Bon. Mais remarquez, on peut maintenant poser la question, et vous allez voir où je vais en venir avec ça. Est-ce que c'est strictement nécessaire pour cette cellule, pour que cette cellule fasse ce développement, qu'elle passe 9 mois dans le ventre de la mère? Vous pourriez dire oui, c'est nécessaire. C'est pas nécessaire. Ça peut se faire en dehors de la matrice de la mère. C'est ce qu'on appelle l'évolution biologique. Et Abdu'l-Bahá dit, la terre physique a été la matrice pour la race humaine. Et quelle est l'évolution biologique? Mais la science nous le dit, c'est l'évolution des animaux, des êtres à une cellule, qui, par la mutation et la sélection naturelle, se complexifie. Et quel est le fruit ou le résultat de cette évolution de plusieurs milliards d'années? C'est l'âme. L'homme mature. Donc, la vie qu'on passe dans la matrice de notre mère récapitule dans 9 mois une évolution qui, en dehors de la matrice, a pris à peu près un demi-milliard d'années, en fait. 600 000 ans, si on remonte. Les fossiles des premiers animaux cellulaires, unicellulaires, comme dans le Burgess Shale et tout ça, je suis sûr que vous connaissez tout ça, ça remonte à il y a 600 millions d'années. Enfin, je dis un demi-milliard pour avoir la paix avec ça. Me contrôler si je dis des bêtises, ok? Non, mais ça, je suis sûr de dire la vérité, telle qu'elle est écrite dans des livres scientifiques. Alors, pensez à ça. Alors, toute cette complexification graduelle, à partir des animaux unicellulaires, jusqu'au, etc., au singe, etc., finalement à l'homme, l'homme est le plus complexe de tout. Ça, c'est scientifiquement indiscutable. Le cerveau humain, le système humain, est le phénomène le plus complexe dans l'univers connu. Ok? La galaxie des étoiles est plus grande que l'homme, mais n'est pas aussi complexe que l'homme. D'ailleurs, ce sont des fourneaux à hydrogène. En fait, ils sont vraiment très simples, très, très, très crus. Donc, l'être humain, physiquement parlant, est le phénomène physique connu qui soit le plus complexe. Et, juste pour compléter, Abdu'l-Bahá nous dit, la science nous dit que le corps humain est le plus complexe. Abdu'l-Bahá ajoute que c'est le phénomène le plus complexe qu'il est possible de faire avec des éléments physiques. Et que c'est convenable parce que le corps étant le temple de l'âme, okay, étant le temple de l'âme, il convient que le temple de l'âme, qui vient de Dieu, qui est créé par Dieu et tout ça, que ça soit la chose la plus parfaite. Ça serait pas en quelque sorte digne de Dieu de faire un être humain et de le douer d'une âme s'il pouvait faire un autre être plus raffiné que l'être humain. Ok? Est-ce que cette pensée est claire, en fait? Ou non?
Oui, c'est clair. J'avais une question, mais...
Ok. Mais c'est juste la clarté qu'on recherche. Et d'ailleurs, dans un autre écrit, Baha'u'llah dit que l'être humain est l'apogée de la création. Ok? Mais dans un certain passage, je peux vous montrer, il dit que le corps humain est la chose la plus parfaite qu'il est possible, logiquement possible, de faire avec des éléments physiques. Que l'être humain représente le summum de ce qui est possible dans le monde physique. Alors, maintenant je reviens à mon histoire de la matrice et tout ça. Qu'est-ce qui permet à l'embryon individuel de comprimer un demi-million d'évolution dans 9 mois. C'est le code génétique. Ok? C'est l'ADN. C'est-à-dire, cette cellule fécondée a toutes les instructions parce que le ADN existe au niveau de la cellule, n'est-ce pas? Ça existe au niveau de la cellule. Donc l'ADN, c'est, comme nous savons, c'est une recette. C'est littéralement un livre. Et ça, c'est même pas une métaphore. C'est littéralement, si on prend ce qu'on appelle les bases des gènes, ok, vous prenez les gènes si vous voulez, c'est comme un livre, c'est-à-dire c'est écrit linéairement, et les gènes sont des recettes pour faire des acides aminés. Donc,
comme des lettres.
Comme des lettres, exactement comme des lettres. Exactement comme l'alphabet et les mots. On peut faire des salades, on peut faire des mots significatifs. Alors les gènes, c'est les séquences de lettres qui sont significatives, qui disent quoi faire et tout ça. Et donc, cette cellule naissante a toutes les instructions comment devenir un être humain. Okay? Évidemment, il a besoin d'être nourri et tout ça, supporté pendant cette chose-là. Mais mettez un cochon, mettez un rocher, mettez une autre chose dans la matrice de la mère, ça ne va pas devenir un être humain parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas cette code, ces instructions. Et qu'est-ce que c'est l'ADN? C'est le savoir de l'évolution de 10 milliards d'années qui, par des mutations, a été encodé. Donc, l'évolution biologique a encodé son savoir pour permettre à cette seule cellule née de 2 corps adultes, ok, et les instructions. Donc, elle répète littéralement les instructions, toutes les instructions qu'elle a cumulées pendant un demi-million d'années d'évolution. Maintenant,
pourquoi un embryon peut faire, par exemple,
d'un... Oh, mais c'est ça, oui, Bam de Bali, ça, oui. D'un petit poisson et tout ça, oui. Oui, ça ressemble, oui, à différentes étapes, ça ressemble à un poisson, etc. Et puis aussi, si vous prenez l'embryon, par exemple, des chimpanzés ou des mammifères supérieurs, à une étape très primitive, c'est à peine distinguible de l'embryon humain, n'est-ce pas? Enfin, ça l'est bien entendu, mais ça prend quelques semaines avant que ça commence à être vraiment différent, enfin, en apparence et tout ça. Donc je reviens à ma thèse. Il n'est pas strictement nécessaire C'est-à-dire le développement de cette seule cellule jusqu'à un adulte humain, ce n'est pas nécessaire que ça se fait dans la matrice de la mère. Mais ça serait quand même assez lent qu'il faut recommencer tout le processus d'évolution avec chaque individu, n'est-ce pas? Donc, mais ce n'est pas nécessaire au sens strictement logique, mais c'est quand même très utile. C'est-à-dire, ce que permet la matrice de la mère, c'est de comprimer une immense quantité de développement dans très peu de temps. Donc c'est un tremplin, si vous voulez, vers ce monde. Donc si un bébé qui naît avant terme, s'il est trop prématuré, il ne peut pas vivre, ok, parce qu'il n'a pas fait assez de développement pour vivre dans ce monde, n'est-ce pas? Alors, Abdu'l-Bahá explique que c'est exactement le même rapport entre ce monde et l'au-delà. Ce monde physique dans lequel nous vivons est une matrice aussi pour nous préparer pour le monde spirituel. Est-ce qu'il est strictement nécessaire qu'on passe par ce monde, cette matrice, pour se développer? Non. Ça peut se faire dans notre monde. Mais, dans l'autre monde, c'est beaucoup plus lent. C'est-à-dire cette vie, avec toutes ses souffrances et ses peines, est une occasion pour un développement spirituel extrêmement rapide. Donc, de la même façon que la matrice de la mère, pourvue des conditions nécessaires au développement de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant pour concentrer, excusez-moi parfois, se concentrer sur son développement, parce qu'il est nourri, il a un tuyau dans l'estomac et tout ça, etc. C'est-à-dire, la mère prend soin de tous ses besoins, donc il peut concentrer sur le seul fait de se développer, n'est-ce pas? Alors, donc, ce qui fait la matrice de la mère, que ça devienne un lieu de développement, c'est deux choses. C'est l'ADN, c'est-à-dire l'encodage de la connaissance nécessaire, et c'est aussi les conditions spéciales, et la connaissance comment profiter de ces conditions spéciales. Alors, on pose maintenant la question, quelles sont les conditions nécessaires dans ce monde, quelles sont les conditions spéciales dans ce monde qui font qu'on fasse du progrès spirituel très vite? Ok? D'abord, il y a l'ADN spirituel, et ça c'est les écrits des manifestations. C'est la parole de Dieu, qui est aussi un livre. Et je rappelle que le code génétique est littéralement un livre. La théorie mathématique du code génétique est identique à la théorie qu'on appelle les systèmes formels en mathématiques. D'ailleurs, juste pour vous montrer, le premier article que j'ai jamais publié comme scientifique, c'était un article sur les systèmes formels. Et j'étais étonné d'apprendre quelques mois plus tard comment mon travail, qui était uniquement sur les langages formels, comme les langages de programmation et tout ça, ok, ça a été appliqué par une équipe de génétique à Berkeley. Oui. Bon, c'est ça, la théorie mathématique des gènes est exactement identique à la théorie mathématique des langages. Donc, quand je dis, enfin, je sais que je répète, parce que souvent on utilise les analogies. Mais dans le cas du code génétique, ce n'est même pas une analogie, il est littéralement un livre. Littéralement un livre qui se lit de gauche à droite. Ça peut se lire de droite à gauche, mais c'est linéaire, c'est toujours linéaire. Ça peut être de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc c'est arabe et anglais, si vous voulez, ok. Mais c'est linéaire, c'est-à-dire c'est strictement linéaire. Alors, donc, quelle est la contrepartie, quel est le pendant spirituel du code génétique? C'est les écrits des manifestations. C'est la parole de Dieu qui est enchâssée dans les écrits saints et qui nous donne la connaissance comment vivre à profit dans ce monde. C'est le manuel de cette destruction. Si on veut se développer spirituellement, on le suit. Si on ne veut pas, on ne le suit pas. Ok. Alors donc, les écrits des manifestations, la parole de Dieu, est le pendant spirituel du code génétique pour le développement physique. Quel est le pendant spirituel des conditions spéciales dans la matrice de la mer? Quelles sont les conditions spéciales de ce monde qui fait qu'avec cette connaissance qui vient des manifestations, on peut se développer tellement vite? Là, je dois vous décevoir. C'est la souffrance. Mais c'est ça qu'Abdu Bha dit? C'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est en luttant contre toute cette souffrance que nous subissons tous dans ce monde que nous nous développons. Une analogie, encore une fois, mes analogies, je sais, ne sont pas géniales, mais si je veux développer mes muscles, je dois prendre de l'exercice, n'est-ce pas? Mais si je veux le développer très vite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des haltères, je vais prendre une résistance. Et je vais lutter contre une résistance. Et aussi, autant que mes muscles croissent et se développent, je vais faire quoi? Plus de poids. Plus de poids. Plus que la résistance est grande, plus vite est la croissance. Pourvu, évidemment, que la résistance n'est pas si grande que ça écrase complètement la personne. D'où la promesse dans les écrits que personne ne serait éprouvé au-delà de sa capacité. Okay? Donc, la souffrance n'est pas un accident de parcours, c'est un élément essentiel de ce monde. Et c'est un élément qui a un but divin. Et ce but est de nous fournir l'occasion et nous prenons les instructions, si nous prenons de la bonne façon, ça nous donne l'occasion de faire un progrès spirituel extrêmement rapide. Pour qu'un autre, dans l'autre monde, pour ainsi dire, a un niveau de développer très très grand. Et Abdu Bahá explique que l'autre monde, il n'y a pas de souffrance. Parce qu'il dit, toute la souffrance, c'est la résistance de la matière. Il dit, ce monde physique est le champ de forces opposées, n'est-ce pas? Vous avez action, vous avez réaction, n'est-ce pas? C'est des forces opposées. Tandis qu'il dit, il n'y a pas dans l'autre monde de forces opposées. Ça, c'est très explicite. Il dit, dans l'autre monde, tout mouvement est vers Dieu. Il dit, il est possible de ne pas progresser dans l'autre monde. Mais il n'est pas possible de reculer parce qu'il n'y a aucune force qui vous fait reculer. C'est-à-dire, tout mouvement est vers Dieu. Donc, les épreuves, les souffrances que nous connaissons dans ce monde, nous ne les aurons pas dans notre monde. Ça, c'est très explicite. Et même il y a un écrit d'Abu Bahá où quelqu'un lui a posé carrément la question. Est-ce qu'on a les épreuves dans l'autre monde aussi ou les épreuves sont seulement dans ce monde? Et Abu Bahá a répliqué très clairement, il dit, sachez que les épreuves sont restreintes à ce monde seulement. Dans l'autre monde, il n'y a pas d'épreuves. Il n'y a pas de souffrance de cette sorte-là. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Mais, évidemment, comme tout est équilibré chez Dieu, ça veut dire que notre progrès dans notre monde sera moins rapide. Mais évidemment, on a toute l'éternité, n'est-ce pas? Donc, cette vie, c'est une matrice, c'est ce qui nous donne l'occasion de faire un tremplin vers l'éternité, si vous voulez. Okay? Et c'est en luttant contre les souffrances de cette vie. Maintenant, si on pense que c'est seulement dans cette vie qu'on peut faire du progrès spirituel, Et c'est ça que croient les hindous. Parce que j'ai un ami hindou, très très intelligent, très très profond, qui connaît bien la foi bahaï aussi. Et nous avons discuté des longues heures. Et la croyance à l'incarnation, c'est la seule chose à peu près qui nous sépare, si vous voulez, dans un certain sens. Okay? Ben, il m'a même dit une fois, je crois donc absolument tout dans la foi bahaï, sauf il a un problème avec la réincarnation. C'est la seule chose auquel je tiens et que j'ai de peine à accepter. Okay. Et moi, je n'ai pas dit, mais que je dise tout de suite que Baha'u'llah dit que la réincarnation n'a pas lieu, que la même âme ne revient pas dans d'autres corps. Alors, mais quand je lui ai expliqué cette notion bahaï, qu'il peut y avoir du progrès dans l'autre monde, qu'il a du progrès dans l'autre monde. Et vous connaissez tous les écrits où Abdu'l-Bahá dit ça, qu'une fois entré dans l'autre monde, l'âme continuera à progresser, etc. Oui, c'est ça. Et tout ça, mais toute âme continuera à progresser dans l'autre monde. Enfin, ça c'est bien dit dans les écrits. Alors, donc, ce n'est pas que le progrès n'est pas possible dans l'autre monde, c'est qu'il y a une sorte de progrès qui est possible seulement dans ce monde. Et le prix qu'on paye pour ça, c'est la souffrance. Donc, quand j'expliquais ça à mon ami hindou, il dit, ah, c'est ça la différence, parce que les théologiens hindous ont toujours insisté que c'est seulement dans ce monde qu'on peut faire du progrès. Donc, un homme qui n'a pas fait de progrès, assez de progrès dans ce monde, doit revenir dans un autre corps pour faire encore de progrès, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que la nirvana, n'est-ce pas, jusqu'à ce que l'âme soit complètement purifiée, dans quel cas, elle va dans l'autre monde, dans une sorte de, je ne sais pas, limbe, enfin. C'est-à-dire, il n'a aucune notion de progrès dans l'autre monde, dans la théologie hindoue, enfin, selon mon ami, enfin. Il n'a aucune. Donc, c'est pourquoi ils tiennent tellement à la réincarnation, parce qu'ils disent l'âme doit progresser jusqu'à ce qu'elle soit complètement développée. Si je prends pour hypothèse qu'aucun développement ne peut se faire dans l'autre monde, que c'est seulement quand l'âme est dans un corps qu'il peut progresser, alors, conclusion, la seule façon que l'âme peut se développer, c'est en revenant dans les corps successifs. Ça, c'est la base de la croyance hindoue. Alors, Abdu'l-Bahá et Baha'u'lláh expliquent que puisqu'il y a des progrès dans l'autre monde et le progrès est vers Dieu, le fait de l'âme de revenir dans un même corps qui le replonge dans le même niveau matériel ne serait pas à cause de son avancement, parce que l'avancement de l'âme, c'est vers Dieu. Et il parle même de l'arc descendant et l'arc ascendant. C'est une sorte de parabole inversée. Donc l'âme vient de Dieu, il touche le monde matériel pendant la vie terrestre, et après, il remonte vers Dieu. Ok? Donc, ce remonter vers Dieu ne pourrait pas se faire si l'âme revient continuellement ici. Et aussi, comme Abdu'l-Bahá dit, est-ce que, il a même dit, à propos, il dit, qui une fois sorti de ce, il utilise même le mot, c'est presque merdier, il dit, c'est tas de poussière ou quelque chose comme ça, c'est même très grossier pour Abdu'l-Bahá, il dit, qui une fois sorti de ce tas de poussière, vous devez revenir encore une fois pour souffrir de nouveau toutes les choses, etc., etc. Il dit, d'aucune façon, ça ne servirait à rien, c'est-à-dire, on peut avoir raté certaines choses dans cette vie, mais si on revenait dans une autre vie, on pourrait rater autre chose, c'est-à-dire que ça ne servirait à rien. Que le passage à l'autre monde est un passage irréversible, et que nous continuons à progresser, donc nous pouvons rattraper ce que nous n'avons pas fait ici, mais que c'est un autre processus de développement. Ce n'est pas le même processus dans ce monde, et c'est un processus qui n'a pas de résistance et donc qui n'est pas doué de cette souffrance et des épreuves que nous connaissons dans cette vie. Alors, ça c'est l'essentiel de l'enseignement bahaï sur la réincarnation. Alors, je résume juste parce que je voulais récapituler les points. Car d'abord, métaphysiquement, il serait possible que l'âme ne vienne même pas sur cette terre. Pour certaines âmes, c'est presque comme ça. C'est-à-dire les âmes qui, par exemple, les bébés qui meurent après quelques heures, ou je ne sais pas quoi, n'est-ce pas, ou les embryons qui meurent à bon terme, etc. Ça envoie toujours des âmes dans l'autre monde. OK. Mais c'est une occasion s'emparer que Dieu nous a donné en nous plongeant dans ce monde, parce que ça nous fournit une occasion s'emparer pour faire un développement extrêmement rapide. Et Dieu a été juste en nous fournissant les outils nécessaires et la connaissance nécessaire pour profiter de ce passage terrestre. Donc, il serait aussi logiquement possible, c'est-à-dire il serait métaphysiquement impossible que l'âme, que Dieu renvoie la même âme dans un autre corps. Mais Dieu ne le fait pas parce que ça ne conduit pas au progrès de l'âme, ce qui est le but de l'existence de l'âme. Et c'est le but même dans ce passage terrestre. Alors,